Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion France. Après avoir été avocate d'affaires, France est devenue créatrice de contenu, puis vigneronne. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Med by F, où elle est suivie par plus de 80 000 abonnés. Depuis l'âge de 7 ans, France veut être avocate, car elle ne supporte pas les injustices. Elle devient finalement avocate d'affaires, influencée par son père businessman qui travaille beaucoup avec des cabinets d'affaires internationaux. Elle se spécialise en fusion, acquisition et marché des capitaux et travaille pendant 6 ans au sein des cabinets Clifford Chance puis Freshfields à Bruxelles. Les responsabilités et le salaire élevé l'impressionnent, mais elle ne se sent pas vraiment à sa place. Vers la fin de sa carrière, France part en détachement à Londres pendant 6 mois et la situation devient alors très pesante. Elle se met une énorme pression pour réussir son détachement et se retrouve dans un engrenage. Elle compte les jours avant ce retour en Belgique et commence même à avoir des idées noires. Elle est victime d'un burn-out. C'est le déclic. Elle démissionne et lance son blog, un rêve depuis longtemps. France est créatrice de contenu à temps plein depuis 2015. Juste après avoir rencontré son conjoint, ancien avocat d'affaires lui aussi, en reconversion pour devenir vigneron, elle décide d'aller faire les vendanges avec lui. France se découvre alors une passion. Ils décident alors d'acheter ensemble des vignes à l'abandon en Moselle, en Allemagne. Ils produisent aujourd'hui du vin naturel sous le nom Jus Naturae. Alors avec France, on a évoqué sa carrière d'avocate d'affaires, comment son père a influencé sa carrière, son burn-out, l'évolution de sa vie de créatrice de contenu, sa position de femme en tant que vigneronne, sa vie de jeune maman et ses futurs projets en droit humanitaire. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec France. Bonjour France, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
Bonjour Clairevie.
Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ?
Alors, j'ai deux casquettes. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je suis également vigneronne.
Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui parce que c'est une reconversion atypique, parce que ton premier métier, ça n'avait absolument rien à voir. Est-ce que tu peux nous raconter tes études et puis ton premier métier ?
Alors, mes études, ça a toujours été très clair. J'ai toujours voulu faire du droit. J'ai décidé ça à 7 ans. Et puis, ça n'a pas vraiment changé. J'ai eu d'autres idées, mais c'était quand même toujours là. Et donc, je me suis lancée dans des études de droit. Sans trop me poser de questions, qui se sont super bien passées. J'ai adoré mes études. De manière générale, j'adore étudier. Donc, si j'avais pu passer ma vie à faire des études, je crois que je l'aurais fait. Et ensuite, je me suis lancée dans une carrière d'avocate en droit des affaires. C'est vrai qu'au moment de terminer mes études, je me posais pas mal de questions, quelle direction prendre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été assez influencée par mon père qui, lui, travaillait, businessman, etc. Et qui travaillait beaucoup avec des cabinets d'affaires internationaux. Et il m'expliquait, voilà, c'est là-bas que tout se passe, etc. Et c'est vrai que du coup, j'avais deux domaines que j'aimais beaucoup. J'adorais le droit des affaires, mais j'aimais bien aussi le droit public international. Et finalement, j'ai fait des stages pendant mes vacances d'été dans des cabinets comme ça. Je me suis dit, oh, ça me plaît bien. Ça me donnait quelque chose un peu. J'avais l'impression de faire quelque chose de, je sais pas, de grand.
Ouais, d'être au centre du monde un peu. Côté, c'est là que tout se passe, quoi.
Voilà, exactement. Et donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai commencé en septembre 2008. Et puis, j'ai fait ça pendant 6 ans, plus ou moins. Voilà, 6 ans où je me suis vraiment concentrée sur fusion, acquisition et marché des capitaux. Donc, c'était vraiment un tout autre domaine.
Et tu disais que tu voulais être avocate dès toute petite. Et dans ta tête, avocate, quand tu es toute petite, c'était quoi ? C'était avocate d'affaires déjà ou avocate pour défendre les injustices ?
Clairement, pour défendre les injustices. Je ne supporte pas l'injustice, en fait. C'est quelque chose qui me rend malade, enfin physiquement, quoi. Donc, c'est vrai que je me voyais. Et puis, il y avait beaucoup aussi à la télé, des séries, des trucs comme ça. Et donc, je me voyais un peu... défendre l'orphelin, quoi. Et puis c'est vrai que ça m'a fait peur aussi quand j'ai dû commencer à réfléchir à quelle direction prendre, parce que j'ai vraiment, c'est très compliqué pour moi de prendre la distance en général par rapport à ce que je fais. Et je me suis dit, ça va me bouffer, en fait, parce que je sais combien le système judiciaire n'est pas juste, en fait. Enfin, ça, c'est quelque chose qui, voilà, on peut en philosopher, mais souvent, c'est une solution raisonnable ou même parfois complètement injuste qui est prise parce qu'il y a la question de la preuve. Et je ne sais pas si j'aurais pu être en tout cas avocate vraiment typique du barreau qui va plaider et qui doit faire face à des situations personnelles très compliquées. Ouais. Même si dans le métier que je faisais, je ressentais ça aussi parce que même si voilà, ce sont des sociétés, il y a toujours l'humain, il y a toujours des gens avec qui on travaille, et des clients qu'on apprécie, et donc forcément il y a toujours quand même un aspect très personnel, c'est normal. Mais c'était des problématiques différentes, quoi. C'était pas par exemple des problématiques de divorce, des délits qui pour moi serait peut-être difficile à gérer. Je ne sais pas si j'aurais été une bonne avocate en termes de défense voilà, pour ce genre d'affaires.
C'est marrant parce que moi, c'est pareil, j'étais avocate fiscaliste et j'avais fait un stage en droit du travail et j'avais trouvé que c'était beaucoup trop avec des humains, en fait. Bon, il y avait beaucoup trop d'émotions. Qualité, ça me plaisait plutôt bien parce que je trouvais que justement, c'était que des chiffres. Ouais. Mais en fait, en parlant un peu avec un avocat, il me disait que finalement, je me rendais pas forcément. Enfin, en fait, il y a de l'humain qui est impacté, c'est juste qu'on voit pas ce qu'on fait.
Exactement. Ouais, voilà.
Et donc, toi, t'étais en droit des sociétés, plutôt?
Fusion, acquisition, je travaillais beaucoup avec mes collègues en droit fiscal aussi, forcément. D'ailleurs, c'est mes deux meilleurs amis que j'ai gardé de cette époque, deux fiscalistes.
Elles voilà. sont toujours avocates, quoi?
Alors non, une est devenue juge, mais en droit fiscal, et l'autre, je sais qu'elle est enfin, elle continue aussi en droit fiscal, mais je pense qu'elle va devenir associée dans un cabinet.
Et donc toi, tu travailles en Belgique ?
Alors non, enfin oui et non. C'est-à-dire que je suis entre la Belgique et l'Allemagne, puisque j'ai déménagé en Allemagne il y a maintenant presque 2 ans. Mais je suis pas très loin. Je suis à 1 heure de la frontière et à 2h30 de Bruxelles. Mais j'ai longtemps toujours travaillé en fait en Belgique et maintenant je fais mon métier en fait à partir de l'Allemagne, tout en revenant une fois par mois en Belgique, ce qui me permet de caser des rendez-vous, etc.
Et quand tu étais avocate, tu exerçais en Belgique ?
Alors, j'ai exercé en Belgique et puis j'ai aussi fait 6 mois, donc un détachement dans le grand cabinet à Londres, où ils envoient tout le monde quand c'est la phase où on passe senior, on va dire. Ouais. Donc j'ai eu 6 mois d'expérience à Londres aussi.
Est-ce que tu peux nous donner le nom du cabinet ?
Oui, pas de souci. Donc il y en avait, enfin à l'époque où je suis partie, enfin c'était Freshfields.
Ouais, Freshfield, ok, ouais, c'est super connu. Parce que, en fait, c'est marrant parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui nous écoutent qui sont avocats.
Oui.
Donc, du coup, c'est toujours sympa de savoir les noms des cabinets, surtout quand c'est des noms qui sont parlants. Alors, ouais. Comment ça s'est passé? Donc, toi, tu dis que tu étais un petit peu poussée par ton père pour aller là-dedans. Oui. Comment ça s'est passé, peut-être tes premiers stages et puis le début
Alors, au début, forcément, je me suis... j'avais, on va dire, deux émotions qui... Je passais de vraiment être super heureuse et me dire « Waouh, quel métier incroyable j'ai !» et de me sentir vraiment... Enfin, voilà, tout de suite commencer aussi avec un salaire très, 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 très haut, très élevé. Je me disais « Waouh, là, je commence bien ma carrière !» Et j'avais en tête de devenir associée quand même. C'était dans ma tête. Et à côté de ça, c'est vrai que je me sentais un petit peu, enfin, très intimidée ou perdue par rapport au fait de commencer dans le monde du travail. Ça, je pense, comme un peu tout le monde, mais c'est vrai qu'on est tout de suite, on fait tout de suite face à des problématiques qui sont très complexes, avec beaucoup de pression, forcément. Et puis, j'ai commencé en pleine crise économique, où il y avait quand même beaucoup de gens qui se faisaient licencier. Donc, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh mon Dieu, mais ils vont se débarrasser de moi. Là, je viens d'arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai qu'en fait, je comprenais pas grand chose encore. Comment fonctionnait un cabinet à l'époque. Et c'est vrai que c'était plus les mid-level qui devaient partir, les juniors qui étaient moins chers restaient, quoi. Donc j'ai échappé à ça. Mais c'est vrai que c'était une ambiance assez particulière. Beaucoup de gens qui partaient. Donc voilà. Mais j'ai commencé en fait chez Clifford Chance, où je suis restée là-bas 2 ans. Je suis partie parce qu'en fait j'étais très forte dans du droit financier sur des dossiers qui venaient de Londres et qui n'étaient pas très intéressants parce qu'en fait j'étais jamais en contact direct avec le client et c'est pas que c'est typique de leur manière de travailler mais c'est juste je pense la conjecture qui a fait ça en fait. Avec la crise économique il y avait moins de dossiers menés et donc je m'ennuyais un petit peu et donc j'ai décidé de partir pour aller chez Freshfields. Donc j'avais quand même déjà fait 2 ans et puis je me disais là c'est le temps de bouger. J'avais une idée un peu plus précise de ce que j'aimais bien aussi en termes de matière parce que j'avais commencé, en tout cas en Belgique, certains cabinets sont organisés où ils ont vraiment un département qui est plus ouvert, c'est-à-dire c'est droit, il y a tout sauf droit fiscal, on va dire. Et donc, on peut faire un peu de tout pour voir ce qu'on aime bien. Donc, j'avais testé droit des marchés des capitaux, j'avais testé fusion-acquisition, droit financier. Et finalement, j'ai vu que, voilà, droit financier, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas pour moi. Je n'aimais vraiment pas ça. Du coup, j'étais contente de partir pour cette raison.
Et tu as fait avocate pendant 6 ans quand même. C'est long, hein, franchement, surtout avec... c'est quand même des carrières qui sont très, très prenantes. Comment ça s'est passé, peut-être, ton évolution entre, voilà, t'arrives, t'es un peu excitée, et puis, à la fin des 6 ans?
J'ai quand même très vite réalisé que je serais pas associée. Parce qu'il faut avoir la niaque pour devenir associée. Et honnêement, quand je me suis rendu compte dans l'univers dans lequel j'étais, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, absolument pas. Donc, je m'étais dit, je vais faire quelques années, hein, comme c'est un système pyramidal, il n'y a de toute façon pas la place pour que tout le monde devienne associé, hein, et beaucoup en fait partent ensuite pour être juriste. Et donc je m'étais dit, je vais partir là-dessus, je vais faire 5 à 8 ans, puis je me prends un bon poste de juriste. Et c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, surtout après avoir changé de cabinet, parce que là j'ai vraiment eu des dossiers à moi, j'avais des clients en Belgique, donc du coup c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant pour moi, et j'ai vraiment, vraiment en fait bien aimé ce que je faisais, mais en même temps, je me disais toujours, j'ai pas trop ma place ici, je sais pas, c'était un peu en background, ou je sais pas si j'essayais de me convaincre que j'avais ma place là, ou que c'était ce que je voulais faire, je sais pas, il y avait un peu cette chose en background qui faisait que c'était pas toujours en fait, oui, je me sentais pas à ma place, mais je savais pas expliquer pourquoi, et je trouvais que c'était très sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on peut faire des choses très sérieuses, mais en n'étant pas forcément toujours très sérieux. Donc, c'est vrai que parfois, je trouvais que les gens, ils se prenaient un peu de haut, quoi. Voilà. Et puis, grande étape, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait aussi un LLM aux États-Unis pendant cette période-là. Et puis, je suis revenue chez Freshfields. Et ensuite, ils m'ont envoyé l'année d'après à Londres. Et ça, c'était vraiment un signe pour moi. OK, je vais passer senior, en fait. Ils sont contents, ils m'envoient à Londres parce qu'ils aiment bien qu'on passe 6 mois là-bas pour un peu voir la maison mère, quoi, on va dire. Et donc, j'étais très, très excitée à cette idée. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, j'ai assez rapidement déchanté parce que je me suis retrouvée complètement perdue. Mais vraiment perdue. J'ai eu vraiment du mal à m'adapter à la culture déjà juste locale. Et c'est vrai que c'était assez différent que d'étudier à l'étranger, parce que par exemple quand j'ai fait mon LLM à New York, on était avec des étudiants. Enfin, à aucun moment je me suis sentie OK, j'ai envie de rentrer à la maison là en fait. Mais là j'étais seule et c'était compliqué de nouer des liens. Les collègues sur place, ils travaillaient beaucoup. Ensuite, ils devaient reprendre leur transport en commun qui les amène très loin, à 1 heure. Parce que c'est pour avoir une maison ou quelque chose d'un peu plus grand, il faut aller assez loin du centre de Londres. Et puis aussi, je me suis mis une pression de dingue. En partant, l'associé avec qui je travaillais le plus m'avait dit « France, on compte sur toi, fais quelque chose de bien, parce que souvent, on envoie les gens là-bas, on les met un peu dans le placard, quoi. » Parce que c'est vrai que c'est compliqué de confier un dossier quand une personne est là que 6 mois. Bon, les dossiers durent quand même assez longtemps, et donc pour eux, le fait de devoir après remettre quelqu'un de nouveau sur le dossier, enfin c'est embêtant. Mm. Et donc, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir un dossier, pour avoir quelque chose. Et je me suis retrouvée, en fait, sur un dossier qui était assez compliqué pour plusieurs raisons, parce que, en fait, c'était un client d'une associée qui était partie en congé maternité, mais qui était revenue. Mais entre-temps, ce client avait été géré par un autre associé. Et donc, les deux associés voulaient garder le client. Donc, il y avait deux associés sur le dossier. C'était un dossier très, très compliqué. Le senior venait d'un département, je crois qu'il venait d'IP, et en fait, il ne remplissait pas son rôle de senior, en fait. Il n'avait pas l'habitude de faire des dossiers menés. Et c'est vrai que, du coup, moi, je me suis retrouvée sur une façon complètement différente de travailler, à devoir gérer des choses que je ne connaissais pas, et finalement, quand même, me retrouver vraiment perdue. J'ai même dû faire du droit fiscal du Nigeria. J'étais là, mais moi, je ne sais pas ce que je fais. J'étais vraiment très, très stressée, et je voulais bien faire, en fait. Je me suis mis une pression de malade parce que je voulais vraiment pas revenir à Bruxelles et j'avais eu ma promotion entre temps. Et en fait, petit à petit, je me suis retrouvée dans un engrenage, et je sais que j'ai commencé à décompter les jours. Et j'avais un papier où j'avais marqué tous les jours qui me restaient avant de revenir en Belgique, donc comme en prison, quoi. Et je barrais tous les jours, voilà, et j'avais fait un décompte. Mais quand je me dis que j'ai fait ça, ça paraît fou, en fait, mais ça m'aidait à tenir, quoi. Et donc tous les jours, j'arrivais au bureau et je pouvais barré un jour et alors en baisser le décompte, quoi. Je ne sais pas quand je l'ai commencé, mais je sais qu'en tout cas, déjà, il restait quand même encore peut-être allez, 80, 90 jours, 90 jours avant que je rentre, quoi. Donc, ça, c'est long, quoi. Donc, tout de suite, j'ai commencé à faire ça. J'étais extrêmement stressée. J'étais pas bien du tout. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que c'était le mois d'août. Oui, mois d'août. Et je devais rentrer début septembre à Bruxelles. Je me suis vraiment écroulée, on va dire. J'arrivais plus à rien faire. J'étais vraiment pas bien. L'idée de même d'envoyer un email me tétanisait. Et donc, je ne savais absolument pas ce que j'avais. Mais par contre, à Londres, ils ont repéré assez vite parce que là-bas, apparemment, ils ont l'habitude. Surtout qu'à Bruxelles, ils avaient jamais eu ça. Donc, j'ai eu un burn-out. Ils avaient jamais eu cas de burn-out avant dans le cabinet à Bruxelles. J'étais la première.
Youhou. Et comment tu l'expliques? Tu dirais que c'est parce que tu n'avais pas assez de travail ou du coup, tu t'es retrouvée un peu...
Non. En fait, en termes de charge de travail, ça allait encore, mais je me suis mis une pression de malade pour bien faire et j'avais vraiment du mal à travailler avec l'associé parce qu'il était très hands off, mais beaucoup trop pour moi, quoi. Et je me sentais vraiment mais paumée et j'avais toujours l'impression que je faisais du mauvais travail, en fait. Et du coup, c'était horrible à gérer parce que perfectionniste que j'étais, que je suis encore, mais dans une moindre mesure, ça me bouffait de l'intérieur. Je me sentais pas bien non plus parce que j'avais pas de vie sociale. Enfin, ça a été un combo de plein de choses. Et je me demandais de nouveau, qu'est-ce que je fous là, en fait? On était tous du même cabinet dans ce bâtiment. Donc, l'ascenseur, c'était que des gens de Freshfield. Ça, c'est la culture anglaise. On ne dit pas bonjour ni au revoir dans l'ascenseur. Et donc, moi qui débarque de ma petite Belgique, on dit toujours bonjour, au revoir, etc. C'était parfois déroutant, ces petites choses-là aussi qui s'accumulaient. Au début, je me suis dit, oui, c'est cet associé, en fait. Il est, mais bon, c'était pas la première fois, je pense, que quelqu'un avait un burn-out en travaillant avec lui, mais il m'a pas harcelé, il y avait rien de tout ça, en fait. C'était de la mauvaise communication. Et moi qui me suis mis une pression de dingue, en fait, c'était un très, 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 très gros dossier. Donc, voilà comment c'est arrivé.
Après, c'est vrai que pour vivre à Londres, en fait, c'est pas du tout la même mentalité. Ils ont vraiment un côté très séparation de vie privée, vie pro. En France, il y a beaucoup plus le côté after work. On va presque, c'est un peu bizarre même, mais presque à aller se prendre des cuites avec ses collègues, ça fait partie de s'intégrer dans une entreprise, en fait. Alors qu'en Angleterre, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment, je suis au travail, je fais mon travail, et puis après, je suis dans ma vie privée avec mes amis et ma famille.
Mais heureusement, il y avait une équipe de Françaises en détachement, et on était tout le temps à trois, quoi. Donc il y avait quand même. Il y avait quand même ce petit highlight, on va dire.
Mais ça paraît fou parce que pour beaucoup de personnes, je pense que partir travailler à Londres 6 mois, c'est un rêve, découvrir l'Angleterre, Londres. Et toi, t'as pas réussi à mettre de côté ton stress pour profiter, en fait.
Non. En fait, j'aurais pu aller là et pas me prendre la tête, ouais. Quoi, hein, histoire de ma vie. J'ai l'habitude d'aller à l'étranger. Enfin, j'habitais en Suisse, j'habitais en France. Je suis allée 2 fois aux États-Unis faire des études. Enfin, voilà, je suis pas quelqu'un qui n'a pas forcément aussi l'habitude de rencontrer des gens d'un peu partout dans le monde. Mais là, c'était. Mais voilà, je pense que j'avais tellement de pression au travail. Je me sentais tellement mal et beaucoup de pression aussi par rapport à Bruxelles. Je voulais qu'ils soient fiers de moi, en fait. Je voulais bien faire, en fait. Et c'est vrai que du coup, je me suis un petit peu enfermée, quoi. Mais c'est insidieux, quoi. On s'en rend pas compte tout de suite. C'est petit à petit. Et puis à un moment, je sais qu'à vers la fin aussi, je rentrais tous les week-ends. Je faisais ça, quoi. Je me suis bloquée le dos plein de fois aussi. Donc ça, c'était complètement. J'ai même dû rester couchée une semaine. Enfin, ça devenait, en fait, physiquement pour moi. J'ai même eu des pensées parfois. Suicidaire, sans me dire je vais passer le cap, mais je me souviens marcher vers le bureau et il y a les bus londoniens, parfois si on fait pas gaffe ils sont quand même très près du bord, et je me disais mais si je me faisais prendre par un bus, mais que je finis à l'hôpital, mais que je meurs pas, mais que voilà, comme ça je dois pas aller au bureau, quoi. Enfin, c'est des espèces de choses que j'avais en tête qui étaient complètement dingues, mais plus me dire, ah, si ça arrive, peut-être ce serait bien, en fait. Complètement fou, quoi. Ouais. Donc j'en étais arrivée là.
Ouais, tu te sentais vraiment prisonnière. Et donc, tu dis que ça a été diagnostiqué au bureau. Comment ça s'est passé?
Alors là, tout de suite, il y a eu RH, etc. Et ils ont été hyper compréhensifs, hyper... En fait, bon, à Londres, je crois qu'ils avaient déjà eu plus... Enfin, en tout cas, ce que j'ai compris, ils avaient déjà eu plusieurs cas de personnes en burn-out. Et ils m'ont dit, voilà, tu te retires de dossier, il te reste 3 semaines ici, chill, quoi. Voilà. tranquille, tu te remets en forme et puis tu retourneras à Bruxelles, il n'y a pas de souci, quoi. Et tout le monde a été très compréhensif, franchement, pour ça, j'ai rien à dire, on va dire. J'ai eu un bon soutien dans le sens où ça ils ont tout de suite vu qu'il se passait quelque chose, ils ont été très compréhensifs et ils m'ont retiré du dossier et ils m'ont dit de me la couler douce, en fait.
Et t'as réussi à le faire?
De toute façon, j'étais plus sur le dossier, bon, c'était un peu chiant d'être au bureau et d'avoir rien à faire, donc je partais tôt, mais voilà. Donc ça, je m'étais dit, voilà, maintenant c'est fini, je vais rentrer, ça va aller. Et puis quand je suis rentrée, ben ça n'a pas été du tout, parce qu'en fait j'étais épuisée, j'avais perdu toute confiance en moi, et quand je suis arrivée au bureau à Bruxelles, en fait, rien que l'idée de faire un truc hyper basique, j'arrivais plus, en fait, j'arrivais plus à rien faire. Là, ils m'ont dit, écoute, prends 3 à 4 mois. Ils ont payé aussi ces 3 à 4 mois parce que j'étais indépendante, hein, ils ont aucune obligation de le faire en Belgique. Donc pour ça, ils ont été vraiment super. Et donc j'ai pris 4 mois pour me remettre. J'ai fait une thérapie, du coaching, de la sophrologie, tout ce qu'on fait quand on a un burn-out. J'ai vu une psychiatre aussi. Enfin, j'ai eu tout la panoplie des soins qu'on donne à quelqu'un qui fait un burn-out, voilà.
Et ça t'a aidé?
Oui, alors ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, surtout mon coach, voilà, une personne extraordinaire, il m'a vraiment poussée dans mes retranchements, mais de façon douce, me poser des questions. En fait, j'ai réalisé plein de choses, en fait, que je ne me connaissais pas, que je faisais les choses pour les autres. En fait, il y avait plein de choses assez toxiques dans ma manière de fonctionner. Et puis, il m'a poussée aussi à réaliser un grand rêve, hein. Ça faisait plus de 2 ans que j'avais envie de lancer un blog, en fait. Mais je n'osais pas avec mon travail et puis ce qu'on vont dire les autres, etc. Et il m'a mis une deadline. Il m'a dit, non, mais tu vas le faire pour telle date. Ton blog va être lancé. Et je l'ai fait, en fait. Voilà. C'est grâce à mon coach que j'ai lancé mon blog. C'est toujours ému quand je parle de lui. Oui, c'est Olivier Nanga.
Comme ça donne des conseils peut-être pour ceux qui sont à Bruxelles. Et c'est vrai que c'est pas évident de lancer son blog quand on est dans des métiers aussi conservateurs. J'imagine que presque lancé, tu disais que tu n'allais pas y retourner. Tu vois ce que je veux dire, quand on lance un blog et qu'on a peur des réactions au travail, c'est peut-être un premier pas dans le sens où j'arrête d'être avocate.
Peut-être. Maintenant, je m'étais quand même dit, je vais reprendre, en fait. J'avais pas encore, je savais pas très bien où le blog allait mener. C'était un hobby, en fait. C'était vraiment. Je savais qu'il y avait des personnes qui en vivaient, mais j'étais pas encore dans ce mood-là. Et puis c'est vrai que ça m'occupait aussi. C'était assez thérapeutique d'avoir un projet. Mais petit à petit, ça m'a vraiment aidée. Voilà, j'avais beaucoup de fatigue accumulée. Janvier est arrivé, et là, il fallait que je retourne au travail. Et je me souviens que les quelques jours avant, j'étais vraiment pas bien. Et je me souviens avoir dit à mon père, tu sais, je crois que je préfère trouver un petit job pour le moment. Et je me voyais bien, j'avais un pain quotidien à côté de chez moi, aller vendre du pain, quoi. Et j'ai fait ça comme travail étudiant, mais je veux dire, c'était pour moi plus, je me sentais plus âgée d'être en contact des gens, faire des choses, comme ça. Et alors forcément, il a eu une réaction, mais du coup, j'ai repris. Et puis très vite, j'ai vu que je voulais plus faire ce que je faisais. En fait, et donc j'ai demandé. Alors ça, c'est mon coach qui m'a aidée, et je suis toujours émerveillée de ce que j'ai fait à ce niveau-là. Je leur ai fait créer un job pour moi, en fait, parce qu'ils n'avaient pas de personne à l'époque qui gérait le knowledge management. Du coup, j'ai dit, voilà, il vous faut un meilleur knowledge management. Moi, je reviens de Londres, et là-bas, il y a une team et ils ont plein de ressources, et c'est vraiment quelque chose qui maintenant, en fait, il y en a partout depuis des années, mais à l'époque, il y avait pas ça dans les... Et ils ont dit, ok. Donc je me suis retrouvée toujours avocate, mais avec un horaire plus fixe, on va dire. Et j'étais plus sur les dossiers, sauf pour aider. Et je suis restée encore 6 mois, mais en fait, j'avais plus du tout de motivation. Je me sentais vraiment plus à ma place. Et avec toute la thérapie que j'avais faite, je me rendais compte qu'en fait, j'avais plus d'affinité avec ce monde, en fait. C'était plus moi. J'ai quand même encore poussé, tiré sur la corde, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Et je suis retombée en burnout, mais cette fois-ci dépression, on va dire, parce qu'il y avait un peu des deux. Voilà, ce burnout, je sais pas si c'était un peu en couleur burnout qui revenait. Maintenant, c'est vrai que quand on a eu un burnout, ça nous poursuit quand même encore quelques années, quoi. Ça part pas comme ça. Dès que j'avais un petit peu où je me forçais, tout de suite j'étais fatiguée, tout de suite ça allait pas, tout de suite je me bloquais le dos. Enfin voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai de nouveau été à l'arrêt. Et là, du coup, ils m'ont dit, France, il faut qu'on sache qu'on fait. Et du coup, c'est là qu'on a décidé de séparer nos chemins. En juillet 2015, je me suis dit, ok, je vais tenter le coup, je vais essayer de vivre de mon blog et de mon Instagram. Je vais me donner un an. Et puis, si au bout d'un an, ça fonctionne pas, ben, je trouverai autre chose. Je deviendrai juriste. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je voulais plus trop entendre parler du droit. Ça me donnait des frissons. Je voulais plus, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à plein temps, en gagnant zéro. Avec mon activité de créatrice de contenu, quoi.
Mais c'est incroyable que t'aies tenu aussi longtemps, parce que j'imagine que quand tu fais un burn-out, après, j'imagine même pas remettre les pieds dans le cabinet, revoir les mêmes personnes, c'est dur, quoi.
Oui, je suis assez coriace. Mais j'ai un collègue qui avait dit à quelqu'un, ça papote, hein, qui avait dit, ah, mais elle est forte de revenir, en fait. C'est vrai que ça m'était pas. Je me suis dit, bah oui, je reviens, quoi. Parce qu'en fait, j'ai toujours, ma phrase, enfin, mon motto dans la vie, c'est Confucius, c'est la gloire, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que l'on tombe. C'est très, mais je crois beaucoup en ça, que voilà, on peut tomber, mais c'est pas grave, en fait. Parce que, et d'ailleurs, je lisais ce matin un post de Philosophie Sexy où elle parle de ça, elle met ça à la fin. Elle met, j'ai peur de tomber, mais je sais que quand je tombe, en fait, il y a la terre. Et on peut pas tomber très bas, en fait. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Et du coup, pour moi, c'était logique de revenir. Mais en fait, ça n'avait plus de sens de revenir. Mais je suis assez coriace, quoi. J'ai un truc, j'ai une idée en tête. Même si je vais me foutre, mais vraiment mal. Mais j'ai du mal à parfois m'écouter, en fait.
Et comment réagit ton père, alors, quand t'as arrêté définitivement?
Ben, je me souviens qu'à l'époque, je lui ai pas dit que j'avais mon blog. Sais que je disais que je cherchais autre chose dans le domaine juridique, mais j'ai attendu, en fait, d'avoir 10 000 abonnés pour lui en parler. Et là, il était tout fier.
Ah ouais, il a bien réagi.
Oui, super bien réagi. Ouais. Et non. Ah, tu gagnes ta vie avec ça. Ah, c'est bien. C'est très, du moment que, voilà, businessman, quoi. Donc, donc non, vraiment bien. Donc, il a moins bien réagi avec mon évolution après dans le domaine, mais ça, on en reparlera plus tard à la limite. Mais non, il m'a soutenu pour ça. Et il a vu aussi, parce que mon père a fait un burn-out aussi, hein, cette famille. Je crois qu'il a vu aussi un moment. Au moins, il savait par quoi je passais, et donc je pense que ça a aidé aussi, quoi. C'était pas quelqu'un d'incompréhensif, hein, non.
Non, parce que c'est vrai que c'est des métiers qui sont peu conventionnels, et puis c'est pas forcément leur génération non plus.
Ah non, il est pas sur Insta.
Voilà, c'est pour ça.
C'est très bien ce que je fais.
Est-ce que quand tu pars, tu dis à ton travail que tu te lances comme blogueuse à temps plein?
Non, pas du tout. Non. Mais j'avais encore, en fait, dans l'idée, quand je suis partie, j'avais quand même encore l'idée, je vais faire ça, mais je vais peut-être me trouver autre chose. Et puis, en fait, j'ai regardé des offres. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai plus envie de faire du droit. C'est venu comme ça. Et puis, à un moment, je me suis dit là, OK, non, c'est bon. J'arrête de chercher. Je me lance là-dedans à fond. Et puis, on verra bien au bout d'un an si je ferai le bilan.
Et alors, du coup, le bilan était positif?
Oui. Et c'était pas gagné d'avance, dans le sens où c'est vrai que, en fait, je pense que je suis arrivée aussi au bon moment. Et le fait que j'étais avocate a aidé, dans le sens où, en Belgique, à cette époque, on n'avait pas encore en tête de rémunérer les créateurs de contenu. On était assez en retard par rapport à ça, et c'est vrai que du coup j'ai fait beaucoup mon travail a une valeur. J'avais beaucoup des emails comme ça, et puis c'est venu progressivement, et donc ça s'est mis en place, quoi. Et puis voilà, je pense que ils avaient pas encore l'habitude d'avoir des gens qui disent non, puis j'ai aussi un petit peu coacher les autres, enfin, sans me mettre dans ce rôle où j'ai coaché tout le monde, et c'est grâce à moi, hein, pas du tout, c'est pas ça que je dis, mais il y a eu plein de petites choses qui ont fait que c'était le bon moment, quoi. Voilà.
Après, je pense que c'est encore vrai, hein. Je pense que les marques, elles essayent toujours de pas rémunérer.
C'est toujours vrai, mais c'est plus d'essayer, il y a l'idée qu'on doit payer et accepter. De manière générale. Mais à cette époque-là, même l'idée de payer, c'était, on ne va pas payer pour ça quand même. Pas pour une bête photo, je me souviens. J'ai reçu ça quand même. Pour une bête photo? Oui, pour une bête photo.
Et alors, comment ça s'est passé, donc, ton quotidien de créatrice de contenu? Tu t'es sentie à ta place?
Ah oui, j'adorais ça. Et ça, en fait, ça me faisait un bien fou. Bon, j'ai commencé dans des domaines qui, à l'époque, étaient les domaines des créatrices de contenu, la mode, la beauté, voilà. Ça me faisait du bien parce que c'était léger. J'avais besoin d'énormément de légèreté après ces années d'avocate d'affaires où tout est très sérieux. Je suis vraiment partie de l'autre côté. Et ça faisait un bien fou. ça faisait du bien d'être aussi mon propre boss, d'être plus, voilà, j'aime pas quand on met des, enfin, en fait, d'un autre côté, j'ai besoin d'un cadre parce que je suis pas quelqu'un d'hyper discipliné, mais si c'est trop, du coup, ça me bouffe, quoi. Donc là, je pouvais plus ou moins quand même arriver à trouver un juste milieu. Donc d'un point de vue, on va dire, émotionnel, pour moi, c'était la liberté, quoi. C'était génial, quoi. Donc, et puis ça a bien pris. Et c'est vrai que moi, j'adore aussi rencontrer des gens, parler, voilà. Et c'est vrai que même si c'est virtuel et que parfois c'est assez critiqué, mais j'ai fait des rencontres de fous et j'ai des gens avec qui je parle. Pas dire tous les jours, mais pratiquement depuis 7 ans maintenant, quoi. Donc ouais. Très chouette aventure.
Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour des personnes qui voudraient se lancer? Qu'est-ce qui pour toi a fait ton succès?
Ben, je pense qu'il y a plusieurs choses. Là, il faut aimer ce qu'on fait. C'est tout. Il y a pas de secret. Et le faire pour des bonnes raisons, dans le sens où si on se réveille un matin et qu'on se dit voilà, ben moi je veux gagner ma vie avec ça, bon, et en fait j'avais à un moment cet objectif en tête, dans le sens où moi je voudrais faire cette activité, ouais. Mais c'était pas la raison pour laquelle j'ai commencé non plus, quoi. Enfin, il y a beaucoup de ça aussi, ouais. Et je dirais la régularité, c'est super important, encore plus aujourd'hui avec l'algorithme, ouais. Et franchement c'est pas toujours évident, ouais. d'avoir, surtout maintenant que j'ai ma fille, la régularité c'est mais je pense que c'est ça, c'est super important, et d'être bien clair par rapport à ce qu'on veut partager, et de rester droit, en fait, dans faire quelque chose qui nous ressemble et pas vouloir copier les autres. Si, parfois c'est dur d'expliquer pourquoi ça a marché et pourquoi tout d'un coup ça marche plus. Enfin, c'est...
Mais après, c'est vrai que je pense que plus on essaie, plus on poste, plus on essaie, plus ça finit par arriver au bout d'un moment, en fait.
Oui, je pense. Maintenant, c'est vrai que moi, maintenant, je suis dans une phase où, comme j'ai changé de ligne éditoriale depuis 2 ans, je suis plutôt, je deviens plus niche. Donc moi, je suis, du point de vue de l'algorithme Instagram, il m'a pas à la bonne. Donc je suis plutôt vers la descente, moi, tu vois. Donc c'est pas toujours évident quand on veut après changer ou. Voilà. Mais c'est vrai que la persévérance, c'est important aussi. Mmh. Quoi. Voilà. Bon, bah, ça fait 7 ans que je suis là, donc c'est vrai que maintenant c'est vrai que avec ma nouvelle activité et tout ça, ça devient de plus en plus, on va dire, accessoire.
Bon, alors on va peut-être parler de ta deuxième reconversion. Alors c'est super marrant parce que tu vas nous raconter, mais c'est un projet que tu entreprends avec ton mari qui est compagnon, ouais. Qui est aussi ancien avocat d'affaires. Oui. Alors, je trouve que c'est super rigolo comme histoire. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous êtes rencontrés et puis comment vous avez eu cette idée?
Alors, on s'est rencontrés de façon très romantique via une application rencontre.
Spécial avocat.
Non, mais ouais, c'est vrai, peut-être inventer ça. Voilà. Non, quoique, en fait, je ne recommande pas les deux avocats ensemble. C'est pas toujours. Non, mais je rigole. Non, donc on s'est rencontrés en ligne et trop drôle parce qu'effectivement, lui aussi était avocat d'affaires, mais moins longtemps. Il a fait ça 2 ans. Il s'est rendu compte assez rapidement que c'était pas son truc. Mais dans sa famille, ils sont tous avocats d'affaires, donc je trouve qu'il est parti un peu comme ça, sans trop réfléchir. Et puis en fait, il s'était lancé dans un autre projet qui n'a pas fonctionné. Et à ce moment-là, il s'est dit, il a par hasard découvert une passion pour le vin. Et du coup, il s'est dit, mais en fait, ça me parle bien. Il a fait un stage pour un petit peu essayer de voir vraiment si ça pouvait faire quelque chose, quoi, au niveau professionnel. Et il en avait besoin aussi pour reprendre des études. Donc, en fait, il a décidé de reprendre des études pour devenir vigneron. Donc, il a fait ses 2 ans d'études. Et ensuite, bah, il a décidé de se lancer. Et en fait, je l'ai rencontré au moment où il terminait sa thèse. Donc, c'était le big question mark. Qu'est-ce que je vais faire, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, en fait, connaissait quelqu'un en Moselle allemande, parce qu'il est allemand, qui avait besoin d'aide pour les vendanges. Et donc, on s'est rencontrés en août et alors en fin septembre. C'est parce que les vendanges sont plus tard ici. Il est parti. Et c'est vrai que du coup, moi, quand j'ai appris qu'il faisait ça, je lui ai dit, est-ce que je peux venir? Parce que en fait, j'ai toujours rêvé de faire les vendanges. et du coup, il m'a dit, attends, je vais demander. Et en fait, ils ont dit OK, parce qu'ils vont travailler avec des bénévoles. Et du coup, je me suis arrivée en Moselle. Et je devais rester quelques jours. Et je suis restée une dizaine de jours. Et j'ai... J'ai adoré vendanger, même sous la pluie, parce qu'on a été, c'était pas une année facile. Il a fallu vendanger sous la pluie parfois, parce que c'était ça, ou alors les raisins, c'est pas conseillé de vendanger quand il pleut forcément, mais je veux dire, c'était ça, oui, c'était trop tard, quoi. Mais j'ai adoré. Je me sentais bien, je me sentais à ma place. C'était super méditatif, en fait. Je me sentais trop bien, quoi. Et c'est vrai que j'ai fait une rencontre, là aussi, donc le vigneron chez qui on a fait les vendanges, qui a une philosophie de vie. Il fait des vins bio et nature, mais il est bio depuis 78, donc 78. Il fait des vins nature depuis très longtemps, quoi. Plus d'une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Donc, il était vraiment pionnier. Et donc, c'est vrai que c'était une révélation, quoi.
Peut-être pour t'interrompre, c'est marrant parce que je pensais pas qu'il fallait faire des études pour être vigneron. Je pensais que ça s'apprenait un peu sur le tas avec un vigneron.
Alors, bon, je pense que moi, c'est ce que je fais, en fait. Mais non, il y a beaucoup de science derrière. Il y a quand même... Oui, pour être vigneron, il y a des études. Je pense que c'est intéressant d'avoir aussi la connaissance en background. Il y a quand même beaucoup de choses. Le terroir, enfin le sol, comment fonctionne une vigne, enfin il y a tout cet aspect-là où puis connaître aussi, il a aussi appris la dégustation sans être sommelier, hein, donc ça c'est encore, ça va encore plus loin, mais la dégustation, connaître quand même les différentes régions du vin, etc. Donc c'est pas il y a différentes façons d'étudier, et donc lui il a choisi il est allé à Montpellier parce qu'il y a eu une très bonne école, enfin université en fait, agro, quelque chose comme ça. Voilà.
Et c'est quelque chose que tu recommandes donc de faire des études?
Oui, franchement, moi si je pouvais, là je le ferais. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'instant. Je n'aurais pas trop le temps. Mais c'est et puis de faire des stages aussi. En fait, il y a beaucoup de pratiques également aussi. Hein. Surtout si on n'est pas dans le domaine à la base. Si on vient d'une famille de vignerons, bon peut-être. Mais généralement ceux-là, ils vont aussi étudier. Ouais.
Alors comment ça se passe à ce moment-là? Tu te dis j'adore faire ça et quelle est la suite?
Alors en fait là on commence un peu à réfléchir, on aime bien ça tous les deux, et puis c'est vrai que mon copain avait en tête de se lancer, mais il avait envie vraiment d'avoir son propre vignoble, mais il se voyait pas le faire tout seul en fait, c'est énormément de travail. Alors il s'était dit oui, je vais peut-être trouver un ami, quelqu'un, voilà, un associé quoi. Et puis c'est vrai que comme moi j'aimais ça aussi, mais on s'est dit mais pourquoi pas faire ça à deux, surtout que moi ce que j'aime beaucoup c'est l'aspect viticulture, donc moi j'adore être dans les vignes, m'occuper des vignes, un peu moins la vinification dans le cellier, c'est un peu moins mon truc, donc voilà, c'était assez complémentaire on va dire, et donc ce qui s'est passé c'est qu'on était en réflexion, on se disait où est-ce qu'on va aller. On va aller en France, on va aller en Italie, on savait pas très bien. Puis on réfléchissait aussi à la problématique environnementale, parce que c'est vrai que dans les pays comme ça où il fait beaucoup plus chaud, ils ont des soucis vu que le taux de sucre est beaucoup plus élevé. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais et c'est vrai que l'Allemagne est un pays qui revient sur la scène pour ses vins de qualité. Parce que c'était le cas avant les deux premières guerres mondiales. Je pars faire l'histoire. Et en fait, il y a eu le Covid. Et on s'est retrouvés en confinement. Et là, en fait, le vigneron chez qui on a fait les vendanges nous a dit, vous savez, il y a cette parcelle, là, près d'une de mes parcelles, où ça n'a pas été entretenu depuis 2 ans. Les vignes ont 40 ans. Si personne fait quelque chose, en fait, ils vont les enlever. Parce que si c'est pas entretenu, il y a des risques de maladie pour les vignerons qui sont à côté. C'est dangereux. Donc, en fait, ils enlèvent. Et puis, on s'est dit, mais en fait, on va y aller. on a quand même rien à faire. Enfin, on s'est dit bon, pourquoi pas en fait aller sauver ces vignes. Et donc pendant plus d'un mois, on était matin jusqu'au soir, les week-ends, à tailler ces vignes qui n'avaient pas été taillées depuis 2 ans. Donc c'était la jungle quoi. C'est vraiment la jungle. Et on a vraiment adoré en fait être là. On s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup la région, donc la Moselle allemande. On s'est dit, on va rester et on va acheter d'autres parcelles et on va s'agrandir petit à petit, quoi. Et c'est comme ça qu'on a débarqué ici, quoi. Voilà.
Et à la base, c'était juste un test ou...
Oui, c'était voir, parce qu'en fait, la manière dont c'est... Ce qui est bien aussi, d'ailleurs, quand on veut se lancer, c'est qu'ici, en Moselle allemande, tout le monde a grand domaine viticole avec plein d'hectares. En fait, il y a des grands domaines, mais tout est un peu... il y a les parcelles sont l'une à côté de l'autre, c'est pas les mêmes proprios, enfin tout est un peu éparpillé. D'ailleurs, ils essayent un petit peu de recentrer le truc, mais ce qui fait qu'en fait on peut acheter des petites parcelles par-ci par-là. Et donc c'est génial en fait pour se lancer, s'agrandir petit à petit, parce qu'il faut pouvoir aussi mettre les fonds pour investir directement dans, je sais pas moi, 5 hectares.
Ouais.
Voilà, on s'était dit ça n'engage à rien en fait d'investir sur cette parcelle, et c'est comme ça quoi.
Parce que justement, c'était la question que je voulais te poser. Combien ça coûte à peu près, par exemple, la parcelle, c'est combien la fourchette de prix? Et puis, en combien de temps tu le rentabilises?
Mais ça, c'est un petit peu compliqué dans le sens où ça dépend toujours, en fait, de l'endroit où on achète. Il y a des endroits où c'est très, très cher. Donc, je pense à la Bourgogne. Enfin, voilà. Et il y a ici, par exemple, comme le vin allemand revient, mais c'est pas encore... Il y a des prix qui sont assez abordables. Et surtout qu'en fait, tout est en pente quasi. Des pentes comme ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent investir parce que, enfin, c'est pas vrai, il y a beaucoup d'investissements, mais je veux dire, ça fait que le prix est plus élevé parce que en termes de travail, c'est plus dur aussi. Enfin, le prix est moins élevé parce qu'en termes de travail, mais franchement, ça dépend. Je sais qu'il peut y avoir entre 3 à 7 euros le mètre carré, si je dis pas de bêtises. Je me souviens bien parce que c'est la dernière fois qu'on a acheté, ça date. Mais voilà, c'est la terre agricole en soi n'est jamais inabordable de façon générale. Plus après tous les investissements pour le travail que demandent les vignes, il faut avoir un cellier, il faut avoir de quoi, enfin des barils, il faut une presse. La presse, c'est très cher, donc voilà, c'est plus ce genre de. On n'a pas de tracteur. Un jour, on aura un tracteur, donc voilà, c'est plus, je dirais, les investissements à côté qui sont. Il y en a qui disent, si vous voulez devenir vigneron, faut jamais espérer être riche, quoi. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements de ce point de vue-là. Mais je dirais que la terre en soi, voilà. Et surtout, ça dépend aussi si... là, par exemple, on a une parcelle où on a planté, mais on n'aura pas avant 3 ans la récolte, quoi. Donc, on a 3 ans où on n'a pas de récolte de cette parcelle-là parce qu'on a planté. Donc, c'est pour ça que je dis... Et franchement, d'une région à l'autre, ça peut partir... voilà, les prix.
Et vous, pour avoir une idée, vous avez investi à peu près combien? Peut-être si tu peux nous donner une fourchette.
Je pense que là, on est à facile presque 200 000 euros. Mais c'est pas tellement parce qu'on a un petit peu plus d'un hectare, mais c'est vraiment tout tous les à côté, les bouchons. Enfin, on pense pas, mais tous les petits trucs, le cellier, voilà, on loue un cellier et encore là on a de la chance, on a quelqu'un qui nous loue vraiment à un petit prix. Les machines, là on a dû investir pour mettre en bouteille, quoi. Encore, on cherche des options pas chères.
Non, mais c'est vrai que, parce que en France, quand je vois le prix du vin, c'est vraiment, vraiment pas cher. Et je m'étais fait la réflexion de me dire, mais rien que la bouteille en verre plus le bouchon, ça doit coûter presque le prix de la bouteille.
Oui, et en Allemagne, c'est encore moins cher. Maintenant, ça dépend du type de vin, en fait. Hein, parce que les vins, il y a tous les prix. Et nous, on fait tout à la main. On fait du bio. Donc déjà, c'est pas les mêmes prix. Des gens qui ne font vraiment que la viticulture. Donc ensuite, ils vendent à une coopérative. Ça finit en cuvée et ça finit sur un rayon supermarché à un petit prix, quoi. Pour les petits prix du supermarché, parce qu'on trouve aussi il y a un peu de tout, quoi. Ça dépend à quel niveau on se place au niveau du marché, quoi. C'est la cible, on va dire.
Alors, comment tu prononces votre vin et puis où on peut le trouver pour l'acheter si on veut l'acheter?
Alors, c'est Jus Naturae. Donc, c'est du latin.
Juriste. Enfin, ouais.
En fait, bon, on a un peu hésité parce que parfois, on sait que les gens ont un peu du mal avec le nom. Et on a cherché d'autres options. On s'est dit, non, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, ça veut dire droit naturel, quoi. Mais comme c'est jus, ça s'écrit aussi avec un, ça peut être i ou j et donc, du coup, ça fait jus. Enfin, bref, voilà. C'était un petit peu notre clin d'œil à notre passé juridique. Comme on fait du vin bio. Et aussi naturel. Du coup, pour nous, ça faisait du sens. Mais c'est vrai que parfois, on a encore des discussions. Moi, je suis assez arrêtée dessus. Je suis là, on a choisi, c'est bon, là, on va pas encore discuter. Et parfois, j'ai mon mec, parce qu'on va mettre en bouteille pour la première fois cette année, notre cuvée 2020. Et parfois, il est là. Bon, il a des doutes, mais vraiment, comme tout le monde, quand on se lance et qu'on se pose 10 000 questions. Bon, aucun de nous deux n'a étudié le latin, hein. Voilà.
Et où on peut le commander si on veut?
Ça, c'est la grande question. En fait, comme on va mettre en bouteille pour la première fois cette année, on est en contact avec certains distributeurs parce qu'on a déjà des gens qui sont intéressés. Vu que c'est un petit monde, le monde du vin naturel, et qu'ils cherchent toujours, voilà, on a des collègues qui nous ont recommandé. Et du coup, là, on aimerait bien mettre en bouteille dans le mois ou qui vient, etc. Mais on n'a pas encore, parce que c'est aussi notre philosophie. Notre première cuvée date de 2020. Mais on veut vraiment laisser le temps au vin, en fait, de se vinifier. On n'est pas pour mettre en... Déjà, on laisse tout de façon la plus naturelle possible, même si on décide de pas faire naturel, mais faire que bio. Donc, il y a des moyens pour accélérer, en fait, la vinification, ce que font beaucoup de domaines viticoles. Et c'est comme ça que, quand on a des vendanges en août, septembre, on peut déjà mettre en bouteille, je sais pas, en mars là, de l'année d'après, alors que nous, voilà, ça fait plus d'un an et demi que ça vinifie. Et puis l'année 2021 a été très, très, très mauvaise pour tout le monde. La météo a fait que c'était une catastrophe, encore plus pour les viticulteurs bio. Donc ça a été pareil en Alsace aussi. C'était toute cette région qui était touchée. Donc,
et après, j'imagine que ça doit être un peu stressant, parce qu'avec du vin naturel, t'es pas sûr du résultat.
Oui, c'est pas évident. Et là, on a justement un gros questionnement, parce qu'on est un des vins, on était prêt à le mettre en bouteille. Mais on a fait vérifier le labo, parce qu'on le trouve mais parfait comme il est, vraiment génial, exceptionnel. Je reviens pas qu'on ait fait un vin comme ça. Mais on a encore trop de sucre résiduel, et donc c'est risqué de le mettre en bouteille, ou alors il faut le mettre dans une bouteille pour pétillant avec une capsule. Et même on sait pas comment ça va évoluer, parce que si soit il va rester comme ça, soit ça va encore changer, et donc c'est risqué. Donc on est en train de se dire, est-ce qu'on va mettre un petit peu de sulfite mais vraiment mini, 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 comme ça on le stabilise et on peut le mettre sur le marché, et on sait, voilà, maintenant ça va peut-être changer aussi un petit peu son goût. Donc on est un peu en train de réfléchir à, parce qu'on n'est pas sûr qu'il va encore, que le sucre va bouger, parce que parfois ça s'arrête, mais on sait pas, la fermentation, c'est, voilà, on sait pas dire si ça va continuer ou s'arrêter. Et mettre en bouteille avec ce niveau de sucre là, donc on est à presque 12, c'est trop, en fait, c'est trop dangereux, ça peut exploser, quoi. Donc on est en train de voir. Maintenant, il y a beaucoup de vins nature où il y a toujours un petit peu de sulfite, parce que les réglementations sont toujours très strictes en la matière. Il y en a, ils sont vraiment puristes, où ils mettent zéro, et puis il y en a qui mettent toujours un petit peu. Trop petit, c'est vraiment quand on peut mettre zéro, et sinon un petit peu si c'est pour une question de stabiliser le vin et de pouvoir le mettre en bouteille. Donc là, c'est la réflexion qu'on se fait. Donc c'était un petit peu notre déception de la semaine passée, parce qu'on était vraiment prêts à le mettre en bouteille comme ça, quoi.
Et comment ça se passe, le monde viticole, je dirais, parce qu'on imagine un milieu très masculin. Voilà, c'est peut-être pas forcément évident pour une femme de s'y sentir bien.
Alors, en tout cas, moi, je suis beaucoup avec des viticulteurs bio, vin nature, etc. Donc, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples aussi ici, hein. Par exemple, donc le viticulteur qui est un peu notre mentor, ils font ça à deux depuis des années, en fait. Et la femme est autant impliquée que l'homme, en fait. Donc, les femmes travaillent dans les vignes ici aussi. Je ressens pas spécialement. Parfois, je l'ai déjà ressenti comme ça en croisant un viticulteur, mais bon. Plus, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a quand même beaucoup aussi de travailleurs qui viennent de Roumanie pendant la saison, parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre, et ça, c'est pas un souci, mais bon, ils sont vraiment payés. Ils les traitent pas toujours très bien de ce point de vue-là, et c'est vrai que on m'a prise pour une travailleuse roumaine, parce que je parle pas super bien allemand, et donc je parlais pas trop. Et j'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est quand même, ça va pas, quoi. Enfin, parce que nous aussi, on regarde un peu comment. Là, jusqu'ici, on avait des amis et la famille qui venaient nous aider, mais c'est vrai que on s'étend et on a vraiment besoin de quelque chose qui soit un petit peu plus organisé. Donc, on pense aussi effectivement à trouver, mais alors quand même au salaire, un salaire qui soit correct. D'ailleurs, c'était intéressant parce que je reviens de Provine ce week-end. Donc, c'est la foire internationale de vin qui a lieu à Düsseldorf. C'est vraiment la plus grande foire, en fait, au niveau international. Et il y a des associations, en fait, qui regroupent des femmes qui sont vigneronnes. Alors, il y a beaucoup de sororité, de s'entraide. Enfin, c'est chouette, quoi. Et du coup, je savais pas, mais apparemment, il y a ça aussi en Allemagne.
Surtout qu'au final, je pense que maintenant, peut-être les femmes boivent autant de vin que... voire plus peut-être même que les hommes, quoi.
Je pense que le vin a tendance en général à intimider. Là, il y a un peu maintenant aussi, il y a par exemple un influenceur en Allemagne qui s'appelle Ask Tony, qui lui aime pas du tout toutes ces conventions un peu autour du vin, un peu le snobisme, on va dire, et il casse un peu tous les codes et il cartonne. Donc il y a quand même beaucoup de on va dire une démocratisation de ce point de vue-là du vin, et c'est un peu plus sur pas là du tout à se dire ah machin, enfin c'est plus ce que chaque personne ressent et ce qu'elle goûte. Et moi parfois je goûte pas du tout la même chose que mon chéri, quoi. Ah ouais. Et moi j'apprends encore aussi, donc c'est vrai que je me sens peut-être moins, je ressens peut-être moins aussi, c'est ce que tu mentionnais par rapport au fait d'être une femme dans le domaine viticole, parce qu'en plus, comme je suis tombée enceinte, puis je m'occupe de ma fille, forcément, j'ai été beaucoup moins impliquée. Et donc là, je m'y remets, donc c'est chouette, parce que ça me manquait. Enfin, j'étais impliquée, mais j'étais beaucoup moins, on va dire. Ça, c'est, par exemple, ça, pour moi, ça a été très compliqué, vu que c'est moi qui ai dû me mettre... mais plus en retrait, c'est moi qui étais enceinte et qu'on m'a dit voilà, les pentes ça va bien mais vous allez rester couchée, et puis ensuite c'est moi qui m'occupe d'elle parce que je l'allaite quoi, donc là ça, comme elle va avoir 9 mois, ça commence à être plus facile de m'absenter. C'est vrai que de ce point de vue là mais si j'étais toute seule, je sais pas, j'aurais dû engager quelqu'un. Et puis ça n'a pas été évident pour mon compagnon non plus, parce que du coup lui était tout seul.
Ouais, c'est dur de tout faire en même temps. Et alors toi, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel? Parce que alors aujourd'hui tu es créatrice de contenu plus slow life, green, tu décris plus simplicité, et vous avez vos vignes. Et si tu devais te projeter, ça serait quoi ton plus grand rêve?
Alors là, en ce moment, c'est de nouveau un peu le changement, parce que ce sont les vignes, ça c'est sûr. Mais comme on est encore en plein développement, j'aimerais bien aussi pouvoir... et puis j'aimerais bien avoir aussi une activité à moi sur le côté. Et c'est vrai que je pense petit à petit à peut-être chercher quelque chose dans le domaine en fait du droit humanitaire. En fait, j'aimerais bien travailler pour une ONG. Donc je suis en train petit à petit de voir ce qui fait un peu du sens, ce qui est possible. Bon, tant que ma fille n'aura pas sa place à la crèche, de toute façon ce sera pas. Mais c'est vrai que j'aime encore beaucoup ce que je fais sur Instagram, mais je peux plus, j'ai plus le temps de le faire, pour le faire à plein temps. Ça c'est sûr, parce que je le fais déjà plus à plein temps, mais avec toute l'évolution que j'ai eue, le fait que maintenant je suis assez stricte, enfin vraiment sur les produits que je peux mettre en avant, ça devient difficile même pour moi d'un point de vue éthique parfois aussi, le marketing, tout ça. Voilà, j'ai pour mon vin oui mais pour les autres c'est plus, ça devient compliqué en fait. Donc du coup j'ai envie de garder mon job de créatrice de contenu peut-être que plus comme un hobby. Ça c'est la réflexion du moment, et de prendre peut-être un mi-temps dans le domaine, alors ce serait droit des femmes ou droit de l'environnement. Ce sont mes deux sujets, mes deux dadas, on va dire. Pourquoi pas les deux, combiner les deux, ça ce serait bien. Maintenant à voir, parce que je sais que c'est un milieu qui est assez fermé vu que j'ai pas du tout de background à ce niveau-là. Maintenant bon, comme je suis coriace, hein, peut-être que j'y arriverai. Voilà. Et en fait, je réalise que, et ça j'ai réalisé il y a quoi, 2-3 ans, que quand j'ai fait mes études, je suis en fait partie dans la mauvaise direction, même si j'ai pas de regrets, parce que je suis pas quelqu'un qui... J'aime pas dire, parce qu'en fait, je pense que chaque chose se fait pour une raison et que je suis super contente en fait du parcours que j'ai eu, et je reviendrai pas en arrière. Mais en fait, je pense que si j'étais partie plus vers du droit international public, donc pour faire du droit humanitaire, vraiment défendre des causes et être plus dans les ONG, les associations, ça aurait peut-être fait plus de sens. J'aurais peut-être plus de sens dans ce que je faisais.
Mais c'est marrant parce que ça y est, tu te sens prête à revenir au droit du coup.
En fait, j'ai réalisé aussi, si tu veux, que quand j'ai eu mon burn-out, j'ai vraiment eu un écœurement du monde juridique et j'avais besoin vraiment de légèreté. Et là, en fait, depuis quelques années, j'ai l'impression que je trouve un juste milieu où j'ai... l'aspect léger et sérieux qui se mettent ensemble, tu vois. C'est pour ça qu'aussi dans ce que je fais sur Instagram, j'aime bien parler de sujets importants et qui me tiennent à cœur, et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce revirement. Mais je sens les limites quand même du réseau par rapport à mes ambitions, si je peux dire ça comme ça, par rapport à ce que j'ai besoin aussi intellectuellement parfois. Je me vois bien rédiger des mémos juridiques sur une salle publique. Voilà, je pense que j'ai fait un petit détour comme ça parce que j'avais besoin de distance par rapport à ça suite au burn-out.
C'est bien que tu arrives à retrouver l'envie, parce que c'est vrai que parfois on peut se dire que c'est définitif. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie?
Pour moi, c'est tout simplement en fait de se sentir bien dans cette reconversion. C'est pas parce que quand on parle de réussite, on imagine toujours un peu ce que la société attend de nous, etc. Moi, je pense que, et d'ailleurs, je le ressens bien maintenant. On va conclure avec mon père de nouveau. Pour lui, la vie que je mène maintenant, même s'il adore le vin, et ça, pour ça, c'est génial. Le fait que j'ai fait, par exemple, ce changement par rapport à ma création de contenu, D'un point de vue businessman, il comprend pas parce que forcément, j'ai beaucoup, beaucoup moins de revenus qu'avant. Je suis bien comme ça et c'est pas, et elle est réussie, en fait, pour moi, cette reconversion. Même si je pense maintenant à chercher autre chose, j'aime ce que je fais, en fait, et je me sens bien dans mes baskets par rapport à ce que je fais et je pourrais pas faire autre chose. Et moi, je suis bien, en fait. Je suis bien au milieu de nulle part, dans ma Moselle. J'ai pas besoin de grand chose. Et pour moi, c'est ça aussi une reconversion réussie, c'est de faire ce qui c'est important de définir c'est quoi la réussite pour soi et puis ensuite de pas trop s'attarder sur ce que la réussite pour la société veut dire. Moi je suis bien comme ça.
Bah, un grand merci France, franchement c'est super inspirant de voir tout ton parcours et puis qu'à chaque fois justement tu restes alignée avec toi-même. Vraiment un grand merci. Donc je mettrai tous tes réseaux sociaux aussi de vos vignes pour qu'on puisse peut-être commander puis te suivre sur les réseaux. Merci. Un grand merci.
Merci à toi. Ciao.
Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S @oserlareconversion.com.